Je présente Laurence Allard. Elle est sémiologue, maîtresse de conférences en sciences et communication, chercheuse à l'université Paris-Sorbonne Nouvelle, enseigne aussi à l'université de Lille, département études culturelles et médias, spécialiste des pratiques expressives digitales. Donc on va... Voilà, cette dernière intervention individuelle de la matinée qui va nous permettre de repartir un petit peu dans de l'expressivité. Comment est-ce qu'on individualise les usages et peut-être à l'opposé des questions de puissance qui se posaient juste à l'instant là, avec la disparition et la raréfaction des personnes qui sont capables de réparer nos outils. Voilà, le micro.
Merci Vincent de... c'est vrai que c'est... On est un peu... ça va? Bon, déjà, je vais me présenter. Alors, je vais essayer. Merci beaucoup de cette invitation. Et donc, j'ai pas pu assister, à la journée précédente parce qu'on présentait un terrain récent avec des collègues sur l'éco-production dans le cinéma et l'audiovisuel. Donc, c'est une enquête sociologique sur... les labels éco-prod qui se mettent en place. Et voilà, donc il y a notamment José Alois qui fait partie de l'équipe, qui est l'auteur de, qui est un professeur de physique et qui est l'auteur de ce concept de technologie zombie que je vais citer pour terminer. Donc ici, à travers vos interventions, il y a beaucoup d'éléments qui font écho, bien sûr, à tout un ensemble de réflexions qu'on partage et mon propre travail, puisque j'avais interviewé Anne Aurel il y a quelques années pour un numéro de la revue Théorème, autour justement des arts mobiles, de cette scène des arts mobiles qui était en train de se constituer. Et donc ça m'a donné plus envie encore de poursuivre le projet de monter ce colloque où vous seriez conviés, toi aussi Vincent, mais ce qui tout reste à monter autour justement des archives de la culture mobile, puisqu'une grande partie aujourd'hui de la culture numérique s'exerce, s'accomplit, s'écrit à travers les smartphones. Et c'est vrai que ça pose des questions d'archivage spécifiques, qui ne sont pas pris en charge justement par des institutions, par des instances, peut-être par des utilisateurs, mais bon, il y a vraiment un chantier technique, voire juridique, etc. à penser. Donc sur les questions d'archives mobiles, et dans la table ronde, il a été également mentionné la culture numérique, notamment je crois que c'est Célia qui mentionnait tout à l'heure le droit au remix dans la culture libre. Et donc, je me suis intéressée à un corpus qui sont les mêmes, qui justement sont des images toutes faites, prêtes à être partagées, modifiées, sans forcément attachées à des licences quelconques. Hein, voilà. Et il se trouve que j'ai observé que certains des mêmes sont devenus des NFT. Et ça m'a donné l'idée d'aller voir justement dans les blockchains, comment justement ces mèmes avaient pu circuler, puisque la blockchain, avec pour le meilleur et pour le pire, donc reste un registre, reste des registres comptables à code ouvert. Donc on a affaire quand même à des protocoles open source. Et ils permettent de lire et d'observer, d'étudier en fait des transactions, notamment des transactions d'eux-mêmes. Donc je vais vous présenter un petit peu quelques cas d'usage sur lesquels j'ai travaillé, sans faire toute l'histoire je voulais faire du Web3, du NFT et des mèmes. Mais bon, comme on parle d'archives, c'est aussi pour signaler que ce qu'on vous présente comme le dernier état du web, le web dit 3, a déjà une très longue histoire. Et c'est question de crypto-monnaie également, puisque le livre blanc de Satoshi Nakamoto date de 2008, donc c'est pas non plus tout à fait récent. Et puis cette notion de web 3, notamment popularisée autour des métaverses, aussi une origine, alors pour le coup que j'ai raconté dans cet article d'AOC, mais une origine science-fictionnelle. Donc il y a toute une histoire techno-culturelle qui permet d'historiciser quelque peu donc le dit Web 3. Donc la notion de métaverse est avancée par Snell Stephenson dans Snow Crash en 92, en réaction d'une certaine façon à la notion de cyberspace de William Gibson, donc il avait donc énoncé dans son Neuromancien. Et dans Snell Stephenson cite à l'époque justement un système de réalité virtuelle qu'il appelle Habitat, qui a existé, donc je crois que c'était plus ou moins lié à Vivendi, hein, fin 90, donc voilà, c'est une histoire très ancienne. Et puis Jaron Lanier également est l'un des techniciens penseurs de la réalité virtuelle. Il a été conseiller de Second Life, qui a été le premier métaverse d'une certaine façon, où s'échangeaient déjà des Linden dollars, donc des transactions monétaires étaient déjà possibles. Ensuite, je fais juste rapidement, je vous donne un autre jalon. Dans les métaverses décrits par Snell Stephenson, qui lui-même aujourd'hui est techno, chef futuriste d'une entreprise d'intelligence, d'interface augmentée, de réalité augmentée, voilà. Donc Snell Stephenson décrit dans Cryptonomicon de 99 un univers, un métaverse dans lequel se réalisent des transactions monétaires. Et donc il est très lié à l'époque à toute cette scène qu'on appelle les cypherpunk, donc qui vont associer le mouvement cyberpunk, qui va penser l'internet comme un cyberspace, espace de liberté numérique dans un esprit libertarien, qui sont donc décrites dans la déclaration d'indépendance du cyberspace de 96, hein, qui s'opposait à la régulation, à la tentative de régulation de l'époque. Et donc il y a tout un mouvement qui est né associant justement ces velléités libertariennes d'un cyberspace autonome avec des spécialistes de chiffrement, donc de cryptographie. Et ça a donné lieu la mouvance cyberpunk, qui associe donc les termes de cypher et cyberpunk, donc qui ont été imaginés par une activiste, une des rares femmes du milieu, qui est donc Jude Million. Saint Jude, voilà comme elle se prénommait en pseudonyme. En 97, donc elle propose ce terme de cypherpunk. Et c'est tout un groupe, à la fois d'informaticiens, de mathématiciens, qui vont œuvrer ensemble à développer justement des transactions et des interactions sur Internet anonymisées par le biais du chiffrement. Et c'est quand même une des racines de ce qu'on appelle aujourd'hui les crypto-monnaies, parce que ce sont des transactions qui sont aussi des transactions monétaires, mais qui sont surtout chiffrées par tout un ensemble d'algorithmes. Et dans Cryptonomicon, j'essaie de retrouver la slide, dans Cryptonomicon sont présentées justement des transactions via des monnaies, des crypto-monnaies chiffrées. Donc toute cette histoire, elle rejoint finalement l'histoire technoculturelle d'Internet et nous mène donc à la parution du livre blanc de Satoshi Nakamoto en 2010. Voilà, les Cryptonomicon, c'est un ouvrage qui n'est pas traduit, il me semble, de Snell Stephenson, justement, dans lequel sont décrites justement des transactions, on va dire, déjà presque crypto-monétaires. Alors, sans revenir non plus trop loin dans l'histoire, mais quand on parle justement de transactions crypto-monétaires, donc on va échanger, par exemple, des bitcoins contre des bitcoins, et on a affaire à ce qu'on appelle, donc, dans le jargon des crypto-monnaies, des jetons qui sont fongibles. Mais il y a des catégories de jetons qu'on appelle des jetons non-fongibles, donc qui sont des jetons uniques, non-interchangeables. Et ces jetons non-interchangeables ont retrouvé, alors ils existent dans les protocoles d'Ethereum ou dans les protocoles Bitcoin avec les color coins, donc c'est vraiment la préhistoire de tout l'UNFT. Mais il se trouve que récemment, il y a tout un ensemble d'artistes, de milieux culturels qui sont intéressés à cette entité technique qui est le NFT, notamment pour tout simplement pour vendre leurs œuvres numériques. Et donc il y a toute une scène crypto art qui s'est développée ces dernières années, donc avec notamment Albertine Meunier, qui ont trouvé pas inintéressant pour des artistes numériques de pouvoir justement recevoir des sommes de crypto-monnaies lors de la vente et des reventes, notamment, de leurs œuvres. Donc, il y a une scène voilà, qui s'est développée ces derniers temps. Pour comprendre un peu le concept de NFT, il faut voir que finalement un NFT c'est un peu comme un jeton d'argile en fait, c'est une symbolisation, sauf qu'elle n'est pas comme les jetons d'argile de la Mésopotamie, mais c'est une symbolisation d'une entité qui peut être une œuvre ou d'autres choses. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les spécialistes justement de ces jetons d'argile, donc ce qu'on appelait les tokens, hein, eh bien, ce que certains archéologues ont appelé des tokens, on a aussi cette bulle enveloppe dans laquelle justement des tokens d'argile représentaient des matières premières et qui étaient donc transportées. Et donc elles étaient représentées en valeur, leur nombre, et en matériaux. Qu'est-ce qui était transporté? Et ces jetons donc étaient placé dans une bulle enveloppe qui était ensuite à la réception ouverte par exemple l'acheteur de ces marchandises. Donc la bulle enveloppe, c'était un peu un bon exemple de ce qu'est la blockchain finalement aujourd'hui, et les jetons d'argile sont des bons exemples de ce que pourrait être ce qu'on pourrait appeler des NFT. Voilà, donc je vais rapidement au sujet. Donc ce qui est intéressant dans l'écosystème des blockchains, lorsqu'on veut justement travailler sur par exemple un historique de transactions, c'est que toutes les transactions sont lisibles sur ce registre comptable. Donc là, c'est la blockchain Ethereum. Et vous avez donc les différents jetons voilà, qui sont présents, par exemple, sur l'adresse du crypto-don qu'a ouvert le gouvernement ukrainien au début de la guerre. Et donc, on pouvait envoyer à une adresse qui est symbolisée par le QR code, hein, auquel on accède par le QR code, on peut envoyer donc des dons, des crypto-dons qui ont parfois été des visuels, voilà. Et ces visuels, en fait, ils sont associés à justement un jeton, qui est un jeton unique qu'on appelle donc un jeton NFT. Il y en a deux types sur Ethereum, hein, donc, qui sont des jetons uniques, dans lesquels il y a une identification unique donc, d'un visuel qui, par ailleurs, est stocké, par exemple, sur IPFS, qui est aussi une base de une banque de données d'images ou d'autres choses, hein, de fichiers, mais qui est aussi distribuée et en protocole ouvert. Donc ici, vous avez différents éléments, et en fait, moi, je me sers de l'outil Etherscan, qui permet, enfin, entre autres, de l'outil Etherscan, qui permet justement d'archiver, hein, tout simplement, les différentes transactions crypto-monétaires. Donc ça, c'est un exemple, hein. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la description dit NFT, hein, eh bien, auxquels sont associés des visuels, vous avez justement le lien IPFS, vous avez le nombre justement d'entités qui sont à la fois uniques, mais qui peuvent être multiples, mais qui sont chaque fois uniques, mais qui peuvent être des séries, hein, finalement. Et puis, vous avez également le pourcentage touché justement par l'auteur à la fois à la vente, mais aussi au plan des reventes, tout ce qu'on appelle donc le droit de suite. Et ça a aussi un aspect intéressant pour les artistes, parce que ça permet justement d'être associé à la fois une première fois à des transactions et de recevoir une somme d'argent, crypto-monnaie, et ensuite de pouvoir être associé à tout le circuit des reventes. Donc ça, c'est toujours l'exemple du crypto-don. Et alors, un autre élément important pour travailler justement sur l'historique, par exemple, de transactions autour d'eux-mêmes, ce sont les smart contracts. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une transaction, vous avez un contrat, on va dire, voilà, un contrat virtuel, hein, informatique, hein, qui va le déclencher, dans lequel vous avez donc l'adresse du vendeur, l'adresse du smart contract et également donc le moment où a été forgé le NFT et mis par exemple sur des plateformes de type OpenSea. Donc ça, c'est pour la blockchain Ethereum par exemple, avec cette œuvre de Beeple, voilà, qui a été l'une des premières un des premiers NFT survendus. Aujourd'hui, alors il y a tout un débat autour d'un autre protocole qui est aussi un protocole ouvert, qui est le protocole Ordinals, qui consiste à justement proposer des NFT, non pas qui soient par exemple stockés dans IPFSF et qui sont représentés par des tokens uniques sur la blockchain Ethereum, comme c'est le cas avec par exemple Beeple, mais qui proposent de stocker directement des images dans la blockchain Bitcoin, donc d'inscrire en fait des identités uniques dans la blockchain Bitcoin. parce qu'ils ont numéroté les Satoshi, voilà, puisqu'ils sont les entités minimales du Bitcoin. Et donc ça crée des tas de débats parce que ça, en fait, ça encombre la blockchain Bitcoin. Mais c'est pas inintéressant parce que là encore, on peut aussi tout à fait suivre l'histoire des transactions. Voilà. Bon, je vais pas rentrer dans cette théorie, mais bon, Jean-Marie Schaeffer, dans son nouvel ouvrage, a donné quelques. Il n'y a pas grand monde qui a en fait travaillé sur, théoriquement en esthétique sur ce qu'était un NFT. Et donc dans le dernier ouvrage de Jean-Marie Token, il y a justement la reprise de la distinction de Goodman entre œuvre numérique holographique et œuvre numérique autographique pour essayer de comprendre finalement ce que détient un possesseur hein, finalement d'un NFT. Et d'ailleurs, il conclut par la seule chose qu'il possède en exclusivité, c'est le droit de revente du NFT, puisqu'on peut dire que finalement... Une œuvre, un NFT, artistique et plutôt de type holographique, à l'image par exemple des exemplaires d'un ouvrage par exemple. Voilà. On a parlé du droit d'auteur tout à l'heure. En effet, les juristes se sont intéressés à la question, le CSP là s'est intéressé à la question juridique concernant les NFT. Parce qu'on a là la possibilité d'automatiser le droit de revente, par exemple. Et donc, notamment tout ce qui est royalties qui permettent donc d'être automatisés par un smart contract là, qui va donc lancer 10% sur le wallet de l'artiste ou du créateur. Donc, c'est un peu une réflexion sur la façon dont tous ces protocoles libres ouverts aujourd'hui avec le mouvement de création de NFT contribuent à finalement revenir à, on a parlé tout à l'heure de la culture libre, mais justement à un ancien combat que les premiers libristes avaient mené, qui était les combats contre les DRM et les mesures techniques de protection, notamment dans la loi d'Avzi de 2005 et la DOPI de 2009. Et là, finalement, avec les NFT, on a tout un arsenal technique et finalement juridique pour faire en sorte de, en effet, rentrer dans, finalement, faire rentrer la culture numérique, la création numérique, dans le giron, finalement, un peu des industries créatives et de toutes ces questions de protection de... des droits patrimoniaux. Donc ça, c'est une question aussi qui est intéressante. Et il se trouve que les mèmes, qui sont censés justement être remixables à volonté, sont devenus également des biens rivaux, sont devenus rares, alors qu'ils étaient censés être, voilà, être multiples, remixables, etc. Donc moi, je me suis intéressée à notamment ce mème. Je ne vous montre pas la vidéo, mais c'est un mème issu d'une vidéo... historique hein, de la culture numérique avec notamment cette ritournelle du web qui est Leave Britney Alone qui a été remixée voilà, des centaines, milliers de fois. Il y a une autre ritournelle très célèbre qui est Coucou, voilà, il y a des mèmes hein, qui sont des mêmes ritournelles si on reprend la notion de Deleuze et Guattari. Et il se trouve voilà, donc il y a, je vais vous parler rapidement de ce mème et également de tout un des nouveaux mèmes, hein, ça c'est les mèmes, on va dire mainstream, hein, mais tout un ensemble de mèmes qui ont vu le jour, qu'on appelle les shitposts, au moment de la campagne entre Trump et Hillary Clinton en 2016, et dans lequel une campagne qui a été en grande partie, voilà, aussi qui s'est écrite à travers des batailles de mèmes entre Dank et Cheat. Dank, ça c'est un mème Dank, voilà, et ça c'est un mème shitpost. Voilà, ça c'est un chic post, voilà. Donc c'est des mèmes qui sont plus créatifs, dans lesquels il n'y a pas un référent sur lequel on va remixer, mais qui sont finalement des créations originales, mais qui s'inscrivent justement dans le commentaire d'actualité. Il se trouve que dans cette bataille de mèmes pendant la campagne Hillary Clinton et Trump, vous avez un mème, Pépé de Frog également, et je me suis aussi intéressée au mème Pépé de Frog, qui a été détourné par la alt-right, et qui est devenu, puisque c'était un graphisme, et son auteur a même enterré son mème, attendez, là, voilà, il a même enterré son mème, pour justement s'opposer aux réappropriations par la alt-right. Et voilà. Et donc je me suis intéressée de même justement pour en essayer de comprendre comment leur NFTisation propose des questions, soulève des questions autour de la rareté et comment justement paradoxalement ça permet de les archiver. Alors, donc, Clive Britney-Olone est FTIsé par son créateur, hein, Chris Crocker, qui est un performer queer. Donc, c'est un mème de 2007, et il le NFTise pour financer sa transition de genre. Et donc, c'est une vidéo qui a été remixée des centaines de fois, sur laquelle j'avais déjà travaillé en 2007, et qui aujourd'hui est devenue finalement une œuvre unique sur justement la blockchain Ethereum. Vous avez également je me suis aussi intéressée, oui, à un autre cas, au mème Bernie. Donc Bernie, c'est un mème assez intéressant puisque c'est donc un photographe de l'AFP qui a pris Bernie Sanders avec ses moufles devenues légendaires pendant l'intronisation de Biden à la présidence lors des dernières élections. Et il se trouve que cette photographie est devenue un mème très célèbre, d'accord ? Donc il y a eu X versions de cette photographie. Et par ailleurs, l'AFP a ouvert sur OpenSea, qui est une plateforme justement de dépôt et de dépôt de NFT, eh bien, il se trouve que l'AFP a créé un compte sur OpenSea et a mis en vente une version NFT de cette photo. Et donc cette photo a été NFTisée, donc est devenue une photo unique, qui est devenue un mème et qui est redevenue une photo unique et qui a été achetée par un collectionneur, donc Petit Caillou. Et ça a donné lieu à une émission. Voilà, j'ai travaillé avec le dessous des images parce qu'on a mené l'enquête justement avec la journaliste pour essayer de rendre compte justement de la transaction de ce même devenu rare sur la blockchain Ethereum, toujours en utilisant finalement le registre des transactions. Et on a pu retrouver le collectionneur Petit Caillou qui le possède encore, il me semble, parce qu'il a sa collection également sur OpenSea. Donc ici, c'est un cas assez intéressant également où on a l'historique des transactions et on a aussi une histoire d'image qui à la fois vit sous un mode unique, vit sous un mode multiple à travers les mèmes et redevient rare à travers sa NFTisation. De même pour Pépé, Pépé a plusieurs vies et morts puisque son propre auteur l'a enterré mais avec des réappropriations sous forme de mèmes par la alt-right. Et c'est intéressant parce que c'était l'un des premiers NFT sur Bitcoin également. Et il a donné lieu à justement tout un ensemble de créations à travers justement des rares PP, comme on les appelait, donc tout un jeu de cartes qui sont achevées, une série qui s'est achevée, donc qui est aujourd'hui close, et qui a permis à la communauté de se raconter. Donc c'est à la fois des reprises du même PP de Frog et des créations originales qui possèdent aujourd'hui, de par notamment la clôture de la série, une grande valeur. Donc voilà, c'est un peu l'un avec les CryptoKitties, PP de Frog, les rares PP sont un petit peu les ancêtres de toute cette scène crypto art. Donc la série est terminée, mais elle est de nouveau présente sur justement OpenSea à travers sa NFTisation sous justement des tokens Ethereum. Et c'est intéressant parce que sur l'adresse de CryptoDon, certains rares PP ont été envoyés sur le wallet du gouvernement ukrainien. Et aujourd'hui, vous avez une nouvelle collection qui sont, les rares PP sont closes, mais vous aviez récemment toute la communauté PP Card qui s'est retrouvée à la NFT Galerie. Donc j'ai été voir et c'était assez curieux. Pour ne pas dire autre chose en termes esthétiques. Voilà. Vous aviez les fondateurs, les trois fondateurs des rares PP qui étaient présents, avec des nouvelles séries qui sont donc issues, non pas de la première, qui est cette première carte de Satoshi, mais celle-ci qui est la première sheet card. Voilà. Et donc il y a une série qui repart à partir de cette deuxième carte de la première série RPP. Donc voilà, donc ça c'est aussi intéressant parce que c'est des jeux de multiplication, des jeux de séries, de thèmes et variations, qui reprend finalement la logique même de la création mémétique. Alors un autre exemple, alors voilà, moi quand je travaille pour rendre compte des transactions, je vais utiliser la blockchain Ethereum, Etherscan et sur OpenSea également les mouvements d'achat-vente des collectionneurs et des comptes qui proposent des œuvres. Et puis il y a d'autres collègues qui sont intéressés aussi en utilisant plutôt là des méthodes à la fois toujours d'observation de la blockchain, mais qui sont allés travailler aussi avec des méthodes de sciences computationnelles pour, par exemple, en rendre compte des mouvements, mais sur des corpus importants. Voilà, donc là, on est plus sur des sciences computationnelles qui vont étudier, non pas forcément des mèmes, etc., mais qui, ça m'a semblé assez intéressant, parce qu'ils ont mappé finalement le marché des NFT et finalement ce qui était échangé. Donc ils ont travaillé sur des corpus de millions en fait, de transactions et ont pu ainsi, c'est aussi une recherche à code ouvert, c'est ça qui est quand même intéressant, ils ont pu mapper les réseaux d'acheteurs, finalement se rendre compte, c'est le même phénomène qu'on retrouve dans le monde des crypto-monnaies, c'est-à-dire il y a quelques whales, des baleines en fait, qui vont concentrer les transactions. Mais voilà, ça c'est une recherche que permet justement l'ouverture de ce registre comptable, notamment sur Ethereum. Donc et toute la scène crypto art qui est en train de se développer récemment, peut finalement lire sa propre histoire à travers donc l'histoire des transactions sur les différentes blockchains. Donc j'ai appelé ça la blockchainologie. Finalement, comment on peut étudier la mémétique et autres transactions de crypto art par la blockchain elle-même, qui est à la fois l'outil, la méthode, le support. Alors, tout ça, c'est intéressant intellectuellement, mais ça pose des tas de questions, et notamment des questions, sur des archives, on en a parlé tout à l'heure, on a affaire à des objets numériques qui sont déjà obsolètes, on connaît tous bien sûr la question des périphériques, la question des obsolescences liées notamment au smartphone, aux différents types de portables, etc. Et il se trouve que c'est à la fois de l'obsolescence sociale, mais tout simplement de l'obsolescence technologique. Alors, les crypto-monnaies, elles sont un peu dans la ligne de mire parce qu'elles supposent des puissances de calcul, notamment la blockchain Bitcoin, parce que on a affaire à des transactions qui sont chiffrées, et donc il y a des équations, etc., qui sont... qui demandent de la puissance de calcul pour pouvoir être décodé. Je ne savais pas le... Mais il y a une demande de puissance et surtout il y a de la matérialité parce que les mineurs de Bitcoin, ce sont des machines et donc ça suppose également de la matérialité puisque le numérique a un impact extrêmement fort au niveau de la fabrication puisqu'il demande des matériaux, des minerais, des métaux, une empreinte hydrique. Tout ça ensuite est commercialisé, donc c'est de la mobilité, donc c'est également de l'empreinte carbone. Donc tout ça, ça amène aussi à reconsidérer l'intérêt de cette méthode d'étude par les blockchains, parce qu'elles-mêmes, en fait, ces blockchains sont à considérer comme ce que José Allo appelle justement des technologies zombies, c'est-à-dire que le numérique en général et les mineurs de Bitcoin et tous les ordinateurs à travers lesquels et les smartphones à travers lesquels on peut opérer des transactions et toutes les plateformes de dépôt de ces NFT. Voilà, tout le numérique en général est un système technique que José Allois considère comme zombie parce que fondé justement sur des minerais, des métaux qui ont une criticité certaine et suppose également des ressources fossiles pour leur commercialisation. Et donc ça prolifère, mais à l'aune de la durabilité, c'est déjà mort en fait. D'où le terme de zombie. On a affaire à des technologies qui prolifèrent et qui sont déjà mortes. Et donc José Allois explique qu'il considère que les technologies, c'est son discours d'hier, que les technologies actuelles sont mortes à l'aune de ce qu'il appelle la soutenabilité forte, c'est-à-dire une viabilité tout simplement planétaire, ce qu'il appelle finalement de vivre avec la planète, c'est-à-dire d'avoir un métabolisme, notamment au terme technologique, qui soit aligné, mis en phase avec le métabolisme planétaire. Il dit donc, à l'aune de cette soutenabilité forte, on a affaire à des technologies mortes, et donc, mais qui continuent d'envahir le monde au détriment de l'humanité et d'une partie du vivant. Et il les appelle donc technologies zombies. Elles dépendent d'une part des combustibles fossiles, elles sont basées sur des matériaux qui ne sont pas conçus pour être recyclés. Le smartphone est par exemple très difficilement recyclable, même un ordinateur, et crée une pénurie par l'épuisement des ressources. Elles produisent donc des catastrophes écologiques au détriment de l'humanité et des êtres vivants. Voilà. Donc la zombification que l'on observe avec la numérisation généralisée voilà, est une des limites en fait, à l'intérêt finalement de l'archivage des NFT via les blockchains et de leur étude via les blockchains. Même si c'est intéressant parce que là, on a finalement, malgré tout, un outil de suivi et d'archivage voilà, de certains items de la culture numérique. Voilà, donc on est en plein dans l'ambivalence hein, du numérique. Poison, remède, voilà, pour ne citer personne. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Laurence. Je ne sais pas si on va terminer sur cette note positive. Non. Ouais.
Positive, je
ne
sais pas.
Oui, la zombification du monde. Je crois que pour ce.
C'est un observable.
Bah ouais, en tout cas, c'est un mot qui marque assez bien. Oui, Sébastien.
Ouais, bonjour, merci pour la présentation super dense, super intéressant. Juste question hyper technique, hyper rapide en termes de blockchain et tout. Avec proof of stake, vous ne pensez pas que ça résout certains de ces problèmes et que ça, du coup, ça leur donne un futur? Parce que c'est vrai qu'avec les bitcoins, c'est un peu dur à voir.
Ouais. Bon, mais c'est qu'importe finalement le mécanisme de sécurisation en fait, des transactions, mais on a affaire tout simplement à des terminaux. Des serveurs, donc voilà, on reste quand même prisonnier d'un système technique qui, si on en juge par sa soutenabilité, n'est pas viable à moyen-long terme, voilà, puisque ça dépend quand même de matériaux critiques, et ça contribue à les rendre plus critiques. Donc voilà, même si on abaisse l'empreinte énergétique, on a voilà, tout un ensemble d'autres paramètres qui sont notamment la matérialité, la nécessité de terminaux, etc. Et c'est à la fabrication que ça pèse le plus en fait en termes d'empreinte. Donc c'est pas complètement gagné, même en passant en preuve de possession. Voilà, donc bon. Et puis oui, il y a pas mal d'autres blockchains, Tezos, etc., qui sont depuis longtemps, enfin qui ont été l'une des premières blockchains utilisées par des NFT divers, hein, qui s'étaient posé la question, ils s'étaient brandés un peu sur nous sommes la blockchain. Verte, mais c'est pas voilà, ça dépend quand même de l'écosystème numérique, voilà. Donc le système technique numérique est un zombie, quoi. Si, donc voilà, c'est ce qu'on a observé. Hein. Aucune archive de nos stories pour des questions d'obsolescence technique des appareils, des logiciels, etc. Quand on est sur du propriétaire, mais là on est sur du code ouvert en fait, mais ça reste du zombifié parce que ça dépend d'une matérialité critique. Et ça rend critique la matérialité, enfin la viabilité.
Eh bien, merci beaucoup encore, Laurence, pour voilà, cette présentation aussi. On a eu une matinée assez mouvementée. Pour la suite, les enregistrements du colloque qui a été rediffusé sur la radio des Beaux-Arts, Radio Bâle, vont être disponibles sur le site du pôle numérique qui va devenir le site de la base digitale pour des questions qu'on ne discutera pas aujourd'hui. Et peut-être aussi qu'on pourrait faire un dépôt sur HAL de ces audios, je crois que ça se fait.
C'est pas si simple.
Ouais. Pas